Ça va bien? On dit, merci frère, on dit toujours oui, mais des fois ça va un petit peu moins que d'autres fois, ou des fois ça va un petit peu mieux hein, que bien. C'est correct. On vit tous des choses hein, dans la vie. Il me semble que vous êtes loin ce matin. Vous pouvez vous approcher. Ça me prend des jumelles pour voir... Mon frère en arrière. Le plus important, c'est que vous ne soyez pas loin de cœur. Hein? Le psaume 23, est-ce qu'il y en a qui l'ont maîtrisé? Là? Il y en a qui l'ont appris par cœur? Ça s'en vient bien? OK, super. On va le refaire encore. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Super! Hein, vous êtes rendu pas mal bon. Je vais enlever d'autres paroles là, tranquillement. J'enlève un petit peu plus de paroles à chaque fois. Ce matin, on poursuit dans notre série sur David, un cœur qui bat pour Dieu. Et j'aimerais vous inviter à tourner dans 1 Samuel 23. On est rendu là, dans l'histoire de David. 1 Samuel 23. Et ce matin, on va parler de protection. De protection. OK? Je lis dans la version second 21. On vint dire à David, « Les Philistins ont attaqué Keïla et pillent les aires de battage. » David consulta l'Éternel en disant, « Dois-je y aller? Est-ce que je battrai ces Philistins? » L'Éternel lui répondit, « Vas-y, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla, la ville. » Mais les hommes de David lui dirent, « Nous vivons dans la peur ici même en Juda. Que se passera-t-il si nous allons à Keïla pour combattre les troupes des Philistins? » David consulta de nouveau l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, « Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. » David alla donc avec ses hommes à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il amena leur bétail et leur infligea une grande défaite. C'est ainsi que David délivra les habitants de Keïla. Lorsqu'Abiathar, le fils d'Achimélec, s'était réfugié auprès de David à Keïla, il avait apporté l'éphod avec lui. Saül, informé de l'arrivée de David à Keïla, il se dit, « Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville munie de portes et de verrous. » Saül convoqua donc tout le peuple à la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses hommes. David eut connaissance du mauvais projet de Saül contre lui. Il dit au prêtre Abiathar, « Apporte l'éphod. » Puis David dit, « Éternel Dieu d'Israël, moi ton serviteur, j'apprends que Saül veut venir à Keïla pour détruire cette ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il conformément à ce que ton serviteur a appris? Éternel Dieu d'Israël, veuille le révéler à ton serviteur. » L'Éternel répondit, « Il descendra. » David répéta, « Les habitants de Keïla me livreront-ils ainsi que mes hommes entre les mains de Saül? » Et l'Éternel répondit, « Ils te livreront entre ses mains. » Alors David se leva avec ses hommes au nombre d'environ 600. Ils sortirent de Keïla, s'en allèrent où ils purent. Informé que David s'était sauvé de Keïla, Saül renonça à son expédition. David habita dans le désert, dans les endroits escarpés, et il resta sur la montagne dans le désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Voyant que Saül partait en campagne pour attenter à sa vie, David restait dans le désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva pour aller trouver David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « N'aie pas peur, car mon père Saül ne parviendra pas à t'attraper. Tu régneras sur Israël et moi je serai ton bras droit. » Mon père Saül le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt et Jonathan retourna chez lui. Les Ziphiens montèrent vers Saül à Gibeah et dirent, « David n'était-il pas caché chez nous, dans les endroits escarpés dans la forêt sur la colline d'Aquila, qui se trouve au sud du désert? Descends donc, roi, si c'est ce que tu désires. C'est à nous qu'il reviendra de te les livrer entre les mains du roi. » Saül dit, « Que l'Éternel vous bénisse pour avoir eu pitié de moi. Allez donc prendre encore des informations pour bien examiner et savoir où il se tient et qui l'y a vu, car il est très rusé à ce qu'on me dit. Voyez et reconnaissez tous les endroits où il se cache, puis revenez vers moi avec des renseignements certains, et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. » Ils se levèrent donc et retournèrent à Ziph, avant Saül. David et ses hommes se trouvaient dans le désert de Maon, dans la plaine située au sud de ce désert. Saül partit avec ses hommes à la recherche de David. On en informa David qui descendit dans un endroit rocheux dans le désert de Maon. L'ayant appris, Saül poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne, David et ses hommes de l'autre côté. David se dépêchait pour échapper à Saül. Cependant, déjà Saül et ses hommes l'encerclaient ainsi que les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Viens vite, car les Philistins ont lancé une attaque contre le pays. » Saül cessa de poursuivre David et partit pour aller combattre les Philistins. C'est pourquoi l'on appela cet endroit « Sela Amechelor », qui veut dire « rocher de séparation ». Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, roi de l'univers, souverain créateur du ciel et de la terre. Quel Dieu merveilleux tu es! Quel Dieu glorieux! Quel Dieu miséricordieux! Quel Dieu souverain! Dieu des lumières, de qui nous descend toute grâce et tout don parfait. On demande, Seigneur, encore ce matin, que tu tournes ta face sur nous, que tu nous accordes ta grâce, la grâce de saisir ta parole, la grâce de chercher ta face. Oui, Seigneur, donne-nous un esprit de sagesse et de discernement pour comprendre ta parole. Illumine les yeux de nos cœurs, éclaire notre intelligence, et que ta parole puisse porter fruit dans nos cœurs pour la gloire de Jésus. Amen. Donc, ce matin, ici, le résumé, c'est que Christ est le seul rocher sous lequel tu peux te réfugier contre l'ennemi de ton âme. On parle de protection ce matin. Mon but, c'est de glorifier Dieu en Christ, de démontrer que Christ est le seul refuge possible de ton âme. Donc, dans l'histoire, si on fait un petit résumé où ce qu'on est rendu dans l'histoire de David, vous vous rappelez que David, il avait essayé de se réfugier chez les Philistins, à Gath. Ça avait mal tourné, il a failli perdre sa vie. Il s'est enfui de là, il s'est caché dans la caverne d'Adullam. Et là, le Seigneur a amené des gens, toutes sortes de gens qui étaient en travers avec le règne de Saül. Et puis, il y a eu 400 puis 600 hommes, finalement, des soldats, toutes sortes de monde qui sont venus, un ramassis de gens qui sont venus le trouver. Et puis, on se rappelle, la dernière fois, on a vu comment Saül avait été extrêmement méchant parce que David avait consulté un prêtre avant de s'enfuir. Et puis, Saül l'a appris, puis il a rasé cette ville-là de prêtres. Puis il y a un seul prêtre qui a sauvé, qui s'est échappé avec sa vie, qui est venu trouver David. Et ce prêtre-là s'appelle Abiathar. Donc, là, David est dans la caverne d'Adullam. Et il y a un petit village, Keïla, qui existe encore aujourd'hui, à peu près à 10 kilomètres au sud de la caverne. Et c'était sous le contrôle des Philistins. Donc, là, David vient apprendre que les Philistins ont attaqué Keïla et pillent. Pillent les aires de battage, ça veut dire qu'ils ramassent le grain qui a été ramassé, là, la récolte. Fait que c'est grave, là, parce que les gens n'auront pas de nourriture pour l'hiver. Hein. Et puis David consulte l'Éternel, « Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je battrai ces Philistins? » Et Dieu dit, « Vas-y. Hein? » Mais ces hommes, ils ont dit, « T'es-tu fou? » Autrement dit, ils ont dit, « T'es-tu fou? » On n'est même pas en sécurité où ce qu'on est là, puis on irait s'exposer, puis aller essayer de battre les Philistins. C'est ça que tu veux faire, David? C'est pas logique. Pas vrai? La logique dicte qu'on reste ici, on est sécure dans la caverne, on sait par où les ennemis peuvent nous arriver, tout ça. T'es-tu fou pour aller essayer de délivrer Keïla? Alors, David consulte de nouveau l'Éternel, et qu'est-ce que l'Éternel dit? Il dit, vas-y. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, ils délivrent Keïla. Ils remportent une grosse victoire sur les Philistins. Et ça devient même une bonté pour la ville parce qu'ils ramassent ce que les Philistins avaient laissé. OK. Là, Saül l'apprend. Ah, David est à Keïla. Fait que là, on va aller encercler, on va mettre siège à la ville de Keïla, puis ça va être fini pour David. Là, David dit, qu'est-ce qu'il fait? Consulte l'Éternel. Consulte l'Éternel. Et puis, il dit, est-ce que Saül va venir? Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, oui, il va venir. Est-ce que les gens de Keïla vont me livrer? C'est une question, là. Il vient, lui et ses hommes, il vient de délivrer d'un ennemi, d'une menace incroyable. Ça aurait pu être la ville catastrophique, raser la ville. Les Philistins ont remis le feu là-dedans. Est-ce que les gens de Keïla vont livré? Dieu dit, oui. Quoi? Fait que là, la décision, c'est qu'on doit quitter Keïla. À la base, ça a été logique? Est-ce que ça aurait été logique de rester à Keïla puis dire, ben là, on est en sécurité, les gens, ils nous aiment, on vient de leur sauver la vie. C'était logique, hein? Encore, les deux fois, dans les deux cas, Dieu donne une réponse qui va à l'encontre de la logique. Dieu protège David en le dirigeant par ses conseils, en répondant à ses questions. Puis, la question que je me pose puis que je vous pose aussi en même temps, c'est que, est-ce que tu cherches conseil auprès de Dieu pour des décisions qui donneront direction pour ta vie, ou tu y vas selon ta propre logique et tes raisonnements? Alors même que les choses paraissent logiques, vaut mieux consulter l'Éternel avant d'avancer. Rester en constante communication avec le Père, comme Jésus le faisait. Jésus dit, « Je fais toujours la volonté de mon Père, il était en constante communication. » Lorsque j'étais résident en ophtalmologie, j'avais un petit salaire, on arrivait à peine. Mes amis ont dit, « Hey Brian, sais-tu qu'avec tes études, tu pourrais aller chercher ta licence de médecine en Ontario puis pratiquer comme médecin généraliste en Ontario? » Pour faire des appels à Ottawa. Tu fais des appels à la maison, t'es dans ton auto, ils t'appellent, va là. Hey, tu peux faire du cash en un jour, mon gars? J'ai dit. Fait que là, j'applique, je vais chercher ma licence en Ontario, puis je commence. Je vois une journée, ce que je faisais en deux semaines de paye. C'est payant. C'est attirant. Ça allait bien. Sauf que, là, ben, vu qu'on gagne beaucoup d'argent, ben, hey, on va se payer un petit voyage dans le sud. Hein? On va s'acheter ci, on va s'acheter ça. Puis savez-vous qu'après quelques mois, on était plus endetté qu'on l'avait été avant? L'argent était déjà dépensé qu'elle n'était pas gagnée. Puis ça a continué comme ça, puis en même temps, ça m'amenait à être loin de ma petite famille. J'étais déjà très, très occupé avec ma résidence. Je voyais encore moins ma petite famille. Et puis, j'étais encore plus épuisé et en fin de compte, plus endetté. Pourquoi? Je n'avais pas consulté le Seigneur. C'était logique. Tu as besoin d'argent? Ben vas-y, travaille, gars. C'est de la manne. Ça tombe, là, du ciel. C'était logique. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi. Dieu a répondu par l'éphod. C'est quoi ça, l'éphod? L'éphod, c'était ce genre de gilet ou tablier richement brodé, on le voit à l'image ici, que portait le souverain sacrificateur par-dessus ses vêtements et sur lequel était fixé le pectoral, qu'on appelle. Le pectoral, ça parle hein, du pectus, hein, les pectoraux, exact. Donc, le pectoral, c'est un genre de plaque ou de tablette ornée de 12 pierres précieuses représentant les 12 tribus d'Israël. Et ce pectoral, cette plaque-là, avait aussi une petite poche. Dedans, il y avait les Urim et les Thummim. On pense que c'est des pierres d'une certaine couleur, de différentes couleurs. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez tomber sur cette notion-là d'Urim et de Thummim. On va consulter les Urim et les Thummim. Urim veut dire lumière et Thummim veut dire perfection ou vérité. On ne sait pas, il n'y a personne qui est capable de nous le dire, parce que ça a été perdu dans le temps, exactement comment ça fonctionnait. Mais imaginons que peut-être les Urim, il y avait deux pierres de différentes couleurs, puis l'autre, Thummim, c'était une pierre d'une certaine couleur. En tout cas, il jetait les pierres, puis ça donnait une réponse oui ou non. OK? Ça donnait une réponse oui ou non. C'est ça. Donc, David consulte l'Éternel à travers l'éphod, parce que l'auteur nous dit, il faut comprendre que quand Abiathar, le prêtre, ben, il s'est enfui de son village qui était rasé par Saül. Il lui avait apporté l'éphod. C'était pratique. C'était pratique pour David de consulter l'Éternel de cette façon-là. Aujourd'hui, le souverain sacrificateur, c'est qui? C'est Jésus. La Bible nous dit c'est Jésus, notre souverain sacrificateur. C'est pas le pape, c'est Jésus. Si tu es devenu son enfant et que tu as reçu son esprit, tu peux aller consulter le Seigneur Jésus, ton grand prêtre, et il te répondra par son esprit. Amen. Pourquoi on ne se prévaut pas de ce privilège-là? Hein? Imagine David qui aurait le prêtre puis l'éphod, puis ça n'a pas d'importance, je vais faire ce que je pense. On dit, c'est fou, là. Puis même, il y a eu des réponses contre-logiques. Donc, nous, vous et moi, toi et moi, nous avons ce privilège énorme de pouvoir consulter notre grand prêtre Jésus à condition de l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur. Et il te donnera des lumières, t'éclairera sur ta situation et des vérités pour te conduire dans le droit chemin, souvent par des paroles de la Bible. Question pour toi. Combien de fois par année est-ce que tu consultes le Seigneur pour des décisions dans ta vie? Combien de fois par mois? Par semaine? Par jour? Dieu est là, le Seigneur Jésus est là, et il veut nous protéger en nous donnant des conseils, en répondant à nos questions. Deuxièmement, Dieu protège David en contrôlant les événements de sa vie. Hein? David, il se réfugie dans le désert de Mahon Et puis Saül, il apprend, il y a des gens qui trahissent David. Et Saül, il vient pour l'entourer, puis le prendre. Et tout d'un coup, un messager arrive à Saül. Hey, vite, Saül, les Philistins viennent de nous attaquer dans le pays. Il faut aller défendre le pays, là. Et juste à la dernière minute, juste avant que Saül vienne pour pogner David, il reçoit ce message-là et est obligé de délaisser la poursuite de David. Dieu contrôle les événements de la vie de Dieu, de David. C'est incroyable, hein? C'est un grand Dieu, là, qui est capable de manipuler les événements de la vie pour protéger son fils David. Crois-tu sincèrement que Dieu est au contrôle de ta vie? Lui as-tu laissé le contrôle de ta vie? Vous savez, toi et moi, là, dans notre tête, c'est comme on joue dans un film. Notre vie, c'est un film. OK? Ça prend quoi pour faire un film? Ça prend des acteurs. OK? Un réalisateur, un scénariste. Vous voyez, un scénariste. Un ennemi. Oui. Donc, ça prend un metteur en scène, ça prend un producteur, un écrivain, un scénariste, ça prend des acteurs et tout l'équipage alentour. Ça prend beaucoup de choses, ça prend beaucoup de monde. Hein, quand on voit les crédits à la fin, ça finit plus, là. OK. Mais qui est l'auteur-écrivain de l'histoire de ta vie? Qui est le producteur du film? Je te demande pas de répondre, c'est des questions à réflexion. Le producteur du film, c'est la personne qui fournit les fonds, hein, qui a les poches creuses, là, qui a beaucoup d'argent. Producteur du film, fournit l'argent, les ressources matérielles, les ressources humaines. Qui est le producteur du film de ta vie? Qui est le metteur en scène? Le metteur en scène, lui, dirige les mouvements des acteurs, leur dit quoi faire, quoi dire, quand. Qui est le protagoniste du film de ta vie? Qui est la star? Dans le fond, là, dans quel film joues-tu? Il y a 2 ans, on était en voyage en Portugal, puis le guide animateur, il fait un speech avant le voyage, puis il dit, c'est comme vous allez tourner un film là, pendant les 2 prochaines semaines, vous jouez dans ce film-là, c'est vous qui décidez de votre film, de qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Bien, j'ai trouvé l'illustration pas pire. Mais, vous savez, c'est quoi le problème? Là, on parle d'avoir des réponses, hein, dans notre vie. On cherche des réponses. Qui ne cherche pas de réponses pour sa vie? Hein? Qui ne cherche pas de réponses? Mais savez-vous que beaucoup de gens disent, « Moi, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse aux questions que j'ai, là. Devrais-tu aller faire ça, cet emploi-là, cette conjointe-là, ce conjoint-là? » J'ai beaucoup, beaucoup de questions, puis j'ai jamais de réponse. Bon, voici ce que Dieu m'a dit ce matin. C'est parce que tu joues sur le mauvais plateau. Imaginez-vous à Hollywood, là. Hollywood, là, quand tu vas dans les studios de Universal ou peu importe, Paramount, ou peu importe, là, il y a plusieurs plateaux de tournage. Fait qu'on va tourner tel film ici, là, ça c'est le plateau de tel film. Là, ils fabriquent des scènes, puis toutes sortes de choses, puis ils tournent le film sur ce plateau-là. OK? Mais imagine, là, comment est-ce qu'on est, toi et moi? C'est comme si on serait dans un studio à Hollywood, puis là, ben moi, je veux faire mon film à moi. Fait que je m'installe à quelque part sur le terrain, puis je commence à bâtir des choses, des scènes, tout ça, puis à ramasser du monde. « Hey, tu veux-tu jouer dans mon film? » Puis là, je cherche des réponses, puis il n'y a personne qui m'aide ici. Il n'y a personne qui veut m'aider à tourner mon film. Ben voyons donc. Mon petit gars, c'est parce que tu es sur le mauvais plateau. Il n'y a personne qui t'a donné l'autorisation de faire ça ici. Tu es ton producteur, tu es ton metteur en scène, Puis c'est toi qui veux jouer le premier rôle, puis tu veux écrire ton histoire. Tu veux tout diriger, puis là, tu cherches des réponses. Tu n'as pas de réponse parce que tu n'es pas sur la bonne scène. Tu es sur un plateau de tournage que tu t'es créé toi-même. En réalité, Dieu est le producteur du film de notre vie. C'est lui qui fournit toutes les ressources de ta vie. Dieu est le metteur en scène qui amène les différents éléments au bon moment. Jésus-Christ est l'acteur principal de ce film-là. Pas toi. C'est Jésus qui est l'acteur principal. C'est Dieu qui est l'écrivain et le scénariste. Et c'est lui qui décide de tout ça. Peut-être tu joues dans le mauvais film. Pour avoir des réponses, il faut d'abord que tu acceptes de quitter ton plateau de tournage à toi, là, puis que tu viennes sur le plateau de tournage à Dieu. Et tu entres par une porte au pied du croix, de la croix du Christ. C'est là la porte pour entrer sur cette scène-là. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent des réponses de la part de Dieu. Mais des réponses pour pouvoir mieux jouer dans leur film dont ils sont l'acteur, l'écrivain, le directeur, le producteur. C'est pour ça. C'est pour ça que tu n'as pas de réponse. Puis pour vous, mes frères, chers frères et sœurs qui connaissez Jésus, c'est quoi le problème qu'on a souvent? C'est qu'on retourne sur notre plateau de tournage à nous. Même si on a connu Dieu, même si on s'est soumis à Jésus-Christ, ben, on a tendance à vouloir retourner sur notre plateau puis faire ça par rapport, rendre ça par rapport à moi, la vie égocentrique. On a parlé beaucoup, hein, de la vie égocentrique versus la vie christocentrique. Donc, la protection de Dieu, Dieu protège David en répondant à ses questions, en contrôlant les événements de sa vie. Troisièmement, oui, ça on avait posé la question, en s'interposant entre lui et son ennemi. Juste pour vous rappeler l'histoire, David est d'un côté de la montagne, d'une espèce de rocher comme on voit à l'écran, ici un immense rocher. Puis Saül et ses hommes sont de l'autre côté, puis ils tournent, là. Ça tourne. Puis là, les hommes de Saül, ils les rattrapent de plus en plus, mais il y a un rocher entre les deux. Tournez avec moi dans Psaume 18. Parce que ce qui est merveilleux dans cette étude-là, dans cette série-là, comme je vous l'ai dit souvent, c'est qu'on a une fenêtre dans l'âme de David pour savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Psaume 18. Psaume 18, verset 1. Au chef de cœur du serviteur de l'Éternel, de David, voyez-vous, serviteur de l'Éternel, c'est Dieu qui est le producteur, c'est Dieu qui est le metteur en scène de la vie de David, c'est son Dieu qui est l'acteur principal, qui est le protagoniste, qui est la star, c'est pas David. David est un serviteur. Il adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il dit, « Je t'aime, Éternel, ma force. » Wow! « Je t'aime. » Es-tu capable de dire ça, « Je t'aime » à Dieu? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas capables de dire ça, « Je t'aime. » « Je t'aime, Seigneur. » Moi-même, j'ai trouvé ça difficile pendant longtemps. Éternel, ma force. Éternel, regardez, mon rocher. Wow! Ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Loué soit l'Éternel. Je crie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enserré, les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre a ébranlé, elle a tremblé, les fondements des montagnes ont vacillé, ils ont été ébranlés parce qu'il était irrité. Et là, on ne lira pas tout le psaume, mais c'est toute qu'une image que David donne de l'Éternel qui se lève en colère puis qui vient à sa rescousse. Je t'aime, Éternel, mon rocher. Dieu protège David en s'interposant entre lui et son ami. David, ce qui est particulier de David, puis on le dit, puis je le répète, il saisit des choses de sa vie, puisque pour David, Dieu, c'est le producteur de son film, et le directeur, l'écrivain. Bien, ce qui arrive à David, les événements, les choses qui se passent, hein, il en tire une illustration. Il tire une vérité sur Dieu, sur sa relation avec Dieu de ça. David est sauvé par le rocher. Il dit, « Sais-tu quoi, les gars, là? C'est Dieu, mon rocher. Ce rocher-là qui nous a sauvés, là, physique, là, c'est un rocher, mais spirituellement, il y a un rocher, c'est Dieu. C'est Dieu, mon rocher. » C'est quoi le sens de l'image? Bien, David nous le dit ici, c'est un refuge, une protection, une cachette. Et c'est quoi le danger qui est représenté? C'est la mort, hein? Il dit, « J'étais environné. » Les liens du séjour des morts, verset 6, m'avaient entouré. Les pièges de la mort m'avaient surpris. C'était grave, là. Un peu plus, puis c'était fini. Mais j'ai crié à l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Dieu est mon rocher. Une image riche de sens spirituel. Et c'est une image qui revient beaucoup, beaucoup dans les psaumes. Regardez, psaume 42 à 4. « J'avais mis mon espérance en l'Éternel, il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. » C'est tellement une belle image, parce que souvent dans la vie, comme on va prendre une expression de québécoise, on est dans la marde. Pardonnez l'expression, là, mais la boue, OK? Notre vie ressemble à ça. T'es pogné dans un tas de fumier. Et là, c'est parce que, en voulant tourner ton propre film sur ton propre plateau de tournage, ben, tu as créé plein de problèmes, tu n'as pas de réponse, tu t'es enfoncé dans la boue. Et là, David dit, « Moi, j'ai crié à l'Éternel. Il m'a retiré de la boue, il m'a amené, il a mis mes pieds sur le rocher, il a mis un cantique nouveau dans mon cœur de louange à notre Dieu. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Des extrémités de la terre, dans ma faiblesse, je crie à toi. » Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. Oui, tu es mon refuge. Psaume 61, 2 à 4. C'est incroyable. Conduis-moi sur le rocher trop élevé. Tu ne peux pas arriver là par toi-même. Tu ne peux pas prendre Dieu comme rocher de refuge par toi-même. Il faut que lui t'amène là. C'est par la foi que tu acceptes que Dieu te transporte, qui t'amène et qui te sauve. C'est une grâce, c'est un cadeau. Tu n'arriveras pas en étant un bon petit gars, en essayant de suivre les religions, en essayant d'améliorer la vie alentour de toi. Tu n'y arriveras pas. Tout le monde est coupable devant Dieu. Il y a juste un moyen d'arriver sur ce rocher-là, et on va le voir tantôt. Mais David reconnaît, « Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. » Oui, tu es pour moi un refuge. Fais bon accueil, dit David dans le psaume 19. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 31, Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Délivre-moi dans ta justice. Tends ton oreille vers moi. Viens vite à mon secours. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut. Oui, tu es mon rocher, ma forteresse. Finalement, le psaume 62, puis il y en a d'autres, mais oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai guère ébranlé. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher, mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Dans Ésaïe 44, verset 8, c'est Dieu qui parle. Et Dieu dit à son peuple, « Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais pas. » Dieu dit ça. C'est une image qui est riche dans le sens spirituel pour nous aujourd'hui. Tout comme David, toi et moi, nous avons un ennemi qui cherche à nous détruire. Et cet ennemi-là s'appelle Satan. Satan est un ange déchu, un ange qui s'est révolté contre Dieu et qui cherche à détruire tout ce que Dieu fait. Et qui cherche la perte, activement cherche la perte des êtres humains. Comment fait-il? Sa force réside dans la mort qu'amène le jugement du péché. Satan entraîne les êtres humains dans un filet de péché, dans des pièges, dans des comportements, dans des mensonges, des patterns de vie qui sont contraires à Dieu et qui sont difficiles, voire impossibles, de sortir par eux-mêmes. C'est comme un filet d'araignée, une toile d'araignée, le péché. Tu es pris là-dedans. Le problème, c'est que ce péché-là entraîne le juste jugement de Dieu. Souvent, je demande aux gens, « Pensez-vous qu'il y a quelque chose après la mort? » Bon, là, il y a toutes sortes de réponses. Puis des fois, je leur pose une autre question. « Croyez-vous qu'il y a un jugement après la mort? » Oh, ça, c'est encore plus touché. Jésus a parlé plus de jugement après la mort que du ciel. Le jugement après la mort est basé sur les actes qu'on a tous commis. La Bible parle qu'il va y avoir des livres ouverts, c'est dans l'Apocalypse. Tous les gestes que tu as pratiqués de toute ta vie, les pensées, les actes, les attitudes, tout ça, ça a été écrit, ça a été enregistré. Et Dieu est au courant. Et chacun de nous, la Bible dit, la condamnation repose sur nous, déjà. Qui va être jugé? C'est ça. Les gens pensent que c'est juste les méchants qui vont être jugés. Mais la parole de Dieu nous dit clairement que tous ont péché et sont exclus de la gloire de Dieu. Que tous sont sous le jugement de Dieu déjà là, actuellement. Là. Fait que Satan, sa puissance, c'est de nous entraîner vers le péché, de nous garder captifs dans le péché jusqu'au jugement de Dieu qui est juste, par contre. Son jugement est juste. Mais Satan veut ça, il veut ta destruction, et ce jugement-là mène juste à une place, à la mort éternelle. Sauf que est-ce que c'est ça que Dieu veut? Non, ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu préfère user de miséricorde. Dieu préfère de loin faire grâce. Dieu dit dans sa parole, « Est-ce que c'est la mort du méchant que je désire? » Non, il dit. « Je ne désire pas la mort du méchant. Je désire quoi? Qu'il se détourne de ses... et qu'il vive. Mais un jour, Dieu n'aura pas le choix de juger le péché et de l'éliminer. Pourquoi? Parce qu'il est bon et qu'il est saint. Comment ça, bon? Ben, le péché, c'est ce qui fait tous les ravages dans notre ville, dans notre vie, dans le monde entier. C'est le péché. C'est ça le problème. Si Dieu est bon, si Dieu est juste, pourquoi il existe tant de mal dans le monde? La plupart du temps, les gens vont prendre ça comme excuse. Ben, je leur dis, oui, Dieu ne fait pas justice maintenant, mais il y a un jour, oui, qui va faire justice. Il est patient, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Mais Satan, lui, il veut juste garder les gens dans le péché pour qu'ils arrivent là, puis soit trop tard. C'est comme j'ai dit souvent, imaginez, Dieu vous a créé, Dieu vous aime. Ça, c'est clair. Il ne veut pas votre destruction. Mais on a chacun comme une grosse tasse de café, là. Puis là-dedans, là, c'est le mal. Le mal qu'on accepte dans notre vie. Les mensonges, les méchancetés, les convoitises, tout ça, c'est... Puis là, t'as cette tasse-là dans ta main, puis ta main est serrée fort, parce que ça, c'est ta vie, ça. Là, Dieu dit, qu'est-ce que t'as là dans ta main? Une tasse. Moi, je vois que c'est noir. C'est pas beau. C'est de la révolte contre moi. C'est le péché. Mon petit gars, ma petite fille, je vais un jour détruire ça. Il va falloir. Parce que je suis juste et bon. Je vais devoir détruire ce que tu as dans la main. Mais si je le détruis puis tu t'agrippes, tu vas être détruit aussi. Donne-moi cette tasse-là. Mon fils, il est prêt à boire cette tasse-là. Pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Donne-moi ta tasse. Donne-moi. Parce que je ne veux pas te détruire. Non. Et c'est la mort éternelle, tu seras bouche close devant Dieu. Bouche close devant Dieu.
Hébreux 9:22.
Vas-y, mon frère.
Il est réservé aux hommes de mourir
une fois.
Ben quoi?
Il est réservé une fois aux hommes de vivre une fois, après quoi vient le jugement. Exactement. Satan est appelé dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, l'accusateur. C'est le sens de son nom, Satan. Satan veut dire accusateur. Son jeu, c'est d'accuser devant Dieu tous les êtres humains. Ils sont coupables, détruis-les. Tu n'as pas le choix, Dieu. Regarde. Tu n'as pas le choix. Il veut jouer sur la justice de Dieu. Dans Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 5, il y a une image, il y a une scène incroyable là, dans la prophétie de Zacharie. C'est Josué, le souverain sacrificateur. Puis Zacharie, il voit devant l'Éternel et Satan est à côté de lui. Et Zacharie, c'est le souverain sacrificateur, il est supposé d'avoir les vêtements purs, OK? Puis c'est tout entaché, c'est tout sale. Puis Satan est là, puis il accuse devant Dieu. Et là, il faut aller le voir. Je veux pas faire d'erreur. Vous n'êtes pas obligé de tourner, mais je vais vous lire rapidement. Zacharie, chapitre 3. Il me fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem, celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Alors Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, « Enlevez-lui les habits sales. » Puis il dit à Josué, « Regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. » J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont donné des habits. C'est ça l'image. C'est ça l'image. On vient tous au monde avec des habits pas purs et on rajoute des taches à la pelletée sur ces habits-là. Puis si on se retrouve devant Dieu au jugement final, Dieu n'aura pas le choix rendu là que de passer jugement. Mais c'est là que la beauté de la roche, du rocher vient intervenir. Le symbolisme du rocher spirituel. Tout comme David, nous avons un ennemi qui cherche à nous détruire. Ce n'est pas Saül, c'est Satan. Il veut nous détruire. Puis Christ est le seul capable de nous protéger. Christ, c'est notre rocher. Donc, le péché nous entraîne vers le juste jugement de Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire retomber sur Christ ton jugement. OK? Si tu es caché en Christ, alors le jugement tombe sur Christ et ne t'atteint pas. Et là, ce n'est plus la mort éternelle, mais la vie éternelle pour toi. Ça, mes amis, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle et c'est la seule vraie bonne nouvelle. Tu ne peux pas arriver là sans passer par Christ, parce qu'il y a un jugement qui s'interpose. Alors le jugement, c'est soit toi ou c'est soit Christ qui peut l'accepter. Si c'est toi, ça ne t'avantage pas. C'est la mort éternelle. Oui, il y avait une question?
Oui. On dit que Dieu il nous a pardonné. Il est mort et il nous pardonne. Fait que ça veut dire que tout le monde est pardonné dans le monde.
Non. Non. Non, parce que c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Il faut que tu te reconnaisses pécheur devant Dieu et que tu quittes ton plateau de tournage, tu te dises, OK, moi, sur mon plateau, c'est qui Dieu? C'était moi. C'était qui au centre? C'était moi. Et j'ai fait des choses contre Dieu et contre mes amis, mes voisins, et j'ai offensé Dieu. Et c'est comme j'ai dit, si tu restes sur ce plateau-là, ou si tu gardes ta tasse, tu vas entrer dans le jugement. La question a été posée à Jésus. Est-ce qu'il y en a peu ou beaucoup qui sont sauvés? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Tâchez d'entrer par la porte étroite. Parce que la porte est large qui mène à la destruction. Il y en a beaucoup qui rentrent là. Mais la porte est étroite et le chemin étroit qui mène vers la vie, et il y en a peu, peu qui trouvent. Peu qui trouvent. Pourquoi? Peu qui trouvent, parce qu'il faut s'humilier. Il faut reconnaître que je suis pécheur, que je mérite le jugement de Dieu, et que je délaisse mon plateau de tournage, puis que je m'en viens à la porte qui est Christ, cette porte-là qui est étroite, au pied de sa croix. Je dis, Seigneur, je mérite ton jugement. Je suis perdu sans toi. Viens, sois mon sauveur et mon Seigneur, je te donne ma vie. C'est à ce moment-là que tu passes de la mort à la vie. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne viendra pas dans le jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oui. Pardon? Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Exactement. Beaucoup, beaucoup de gens sont appelés, peu d'élus. Christ est le seul capable d'enlever ton péché et de te secourir de la mort. J'aimerais vous lire 1 Corinthiens 15. On va terminer bientôt. 1 Corinthiens 15. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que son corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, « La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire, par notre Seigneur Jésus-Christ. » Voyez-vous, là, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Le péché, à cause de la loi, nous amène à au juste jugement de Dieu. Mais Christ, lui, accepte de prendre sur lui le péché et le jugement, et donc il enlève le dard empoisonné de la mort. Donc la mort nous atteint, mais ne nous détruit pas. Quand on est en Christ, on meurt physiquement, mais on ressuscite. Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dernière lecture, Romains chapitre 9, au verset 30. Que dirons-nous donc? Des non-juifs, ça c'est nous ça, pour la plupart je pense, qui ne recherchaient pas la justice, ont obtenu la justice, celle qui vient de la foi. Quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur, là, c'est pas juste que tes péchés sont enlevés, mais tu es déclaré juste afin d'être accueilli en présence de Dieu. Ton dossier, ton casier judiciaire est vidé et tu es déclaré juste. OK? On continue. La justice qui vient de la foi, verset 31. « Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais par les œuvres de la loi. » Autrement dit, ils ont essayé de dire, « Ben, regarde, Dieu, là, OK, on sait qu'on est pécheur, là, mais on va faire assez de bien, là. On va faire des bonnes choses. On va faire tout ce que tu dis de ce qu'on devrait faire, là. Puis, comme ça, on va être correct. » Est-ce que ça marche comme ça? Ça ne marche pas comme ça parce que la Bible dit que toutes tes bonnes œuvres ne peuvent pas enlever un seul péché. Qu'est-ce qui enlève le péché? C'est le sang de Jésus-Christ, l'agneau immolé, l'agneau sacrifié. C'est la seule solution, c'est la seule chose qui peut laver tes vêtements. C'est comme si tu prenais un savon et tu essayais d'enlever les taches. Là. Ça, c'est les bonnes œuvres. Tu essayais de, regarde, on va se laver, là, on va se laver Dieu, puis regarde, on fait des bonnes choses, là. On est une bonne personne. Oui, Rémi? La Bible dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission, de pardon. » Exact. De rémission. Il y a des gens qui se pensent bons. Il y a des gens qui se pensent vraiment très bons. Il y en a qui se pensent des maudits bons. Ça, c'est une expression québécoise. C'est un maudit bon gars. Puis des fois, j'ai envie de leur dire, sais-tu que tu es un bon gars, tu es un maudit bon gars, mais tu n'iras pas au ciel, sais-tu pourquoi? C'est pas les bonnes personnes qui vont au ciel, c'est ceux qui se reconnaissent pécheurs. Christ n'est pas mort pour les bonnes personnes, ceux qui se voient bonnes. Christ est mort pour les pécheurs, pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est ce rocher de salut. Je termine ma lecture. Romains 9, 32. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais par les œuvres de la loi. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait obstacle. Wow! C'est quoi cette pierre-là? Comme il est écrit, je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher. Le rocher. Un rocher propre à faire trébucher, mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte ou il sera sauvé. Le rocher, c'est Christ. Le rocher, c'est un rocher de scandale. C'est un rocher, un obstacle. sur laquelle les gens se heurtent. Pourquoi ils se heurtent contre ce rocher-là? Parce qu'ils essaient d'être justes aux yeux de Dieu sans Christ. Ils n'acceptent pas que ça prend Christ pour être juste. Je suis capable. Et c'est un scandale de dire, t'es pécheur, tu ne peux pas être sauvé par toi-même, tu as besoin d'un sauveur. C'est scandaleux. Pourquoi ça heurte l'orgueil humain? Ça heurte l'orgueil humain. L'ego. Jésus, oui, c'est ça. Mais Jésus, cette pierre d'échoppement qu'on appelle, cette pierre qui fait obstacle, est un rocher de salut pour ceux qui croient, qui placent leur confiance en lui. Il devient le rocher de leur salut, comme le rocher que David a eu entre lui et son ennemi. Christ vient s'interposer. Christ vient s'interposer entre toi et le juste jugement de Dieu, et il devient ton refuge, ton rocher de salut. Ton abri. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte, ne sera pas déçu, ne sera pas mal pris. Il va être sauvé. Ce matin, sur qui ou sur quoi comptes-tu pour te sauver de la menace de la mort du jugement de Dieu? Toi-même? Tes bonnes œuvres? Une religion. Le seul qui peut te délivrer, le seul qui peut te donner la victoire sur l'ennemi et la mort, c'est Jésus le rocher. Repose-toi, viens à Christ pour te sauver. Qu'attends-tu pour venir à lui? Peut-être que tu veux continuer à jouer dans ton propre film. Peut-être que tu n'arrives pas encore à partir de ce plateau de tournage que tu t'es construit pour venir sur le plateau de Jésus. Mais Dieu, ce matin, t'appelle encore. Viens. Viens à Christ. C'est le seul rocher. C'est le seul rocher de salut. Prions. Seigneur notre Dieu, merci Père, parce que tu es juste et tu es vrai et tu es tout-puissant et tu es glorieux et tu es miséricordieux et compatissant. Tu ne désires pas la mort du méchant. Tu n'as pas désiré ma mort, Seigneur. Oh Seigneur, je te remercie pour la journée où j'ai réalisé que j'étais pécheur assez pour être condamné par toi, si je restais dans cet état. Et j'ai crié à toi, Seigneur Jésus, et tu m'as sauvé. Ce matin, si tu entends la voix de Dieu qui t'appelle, n'endurcis pas ton cœur. Quitte ton plateau de tournage. Viens à Jésus. Prends-le comme ton rocher, le seul qui peut subir le juste jugement de Dieu contre toi et te sauver. Et Seigneur, nous qui te connaissons, nous qui t'avons pris comme rocher, qui sommes sur ce rocher. Des fois, dans notre cœur, on veut retourner sur nos plateaux de tournage et la vie devient à propos de moi, de mon petit monde, mon petit royaume, mes petits projets, mes petits désirs, mes petits plaisirs. Pardonne-nous, Seigneur. Ce matin, Seigneur, on veut renoncer. On veut vraiment renoncer à retourner sur ces plateaux de tournage où ce que c'est moi qui est au centre, parce que c'est Jésus qui est le centre de l'histoire. On veut se réaligner avec toi, Seigneur, ce matin.
se réaligner avec toi. Tu es le producteur, tu es le metteur en scène, tu es l'écrivain, et Jésus est la star du film. Fais-nous cette grâce, Seigneur. On te prie pour la gloire de Jésus. Amen.